Nous sommes le mercredi 31 janvier 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Très content de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous avons développés ce matin. Le retrait de la CEDEAO est une décision mûrement réfléchie, déclare le chef du gouvernement burkinabé. L'Union africaine, quant à elle, exprime son profond regret. En Tanzanie, le Parlement examine des projets décriés de réformes électorales. La réplique de la Maison-Blanche se précise après l'attaque qui a tué 3 militaires américains au Moyen-Orient. Et nouvelle surprise à la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali et l'Afrique du Sud qualifiés pour les quarts de finale. Ballon rond pour démarrer, l'Afrique du Sud a créé la sensation hier en battant le Maroc, grandissime favori pour se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, rejoignant le Mali, vainqueur du Burkina. Nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yacouba Ouedraogo nous en parlent dans le journal de la CAN, réalisé ce matin à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous, cette CAN 2023, l'une des plus surprenantes, continue de dérouler son lot de surprises. Les deux derniers qualifiés sont connus depuis hier et il s'agit du Mali et de l'Afrique du Sud. En effet, les Bafana Bafana ont piégé les Lions de l'Atlas au stade Laurent Pokou de San Pedro, 2-0 sur place, le compte-rendu avec notre envoyé spécial Amin Birouk.
Humilité, patience et efficacité dans les deux surfaces. Tels ont été les ingrédients de la victoire surprenante de l'Afrique du Sud sur le Maroc ce mardi 2-0. Un succès que les Bafana Bafana doivent certainement à la stratégie de jeu de leur sélectionneur Hugo Broos. Ce dernier a réalisé un plan de match qui a parfaitement muselé les velléités offensives des Lions d'Atlas. Lors de la première période, les Sud-Africains ont aspiré les quelques banderies d'Adli Amellah Hakimi avant de sortir de leur coquille et de planter leur premier but en deuxième mi-temps par Evidence Makpopa, parti à la limite du hors-jeu à la 56e minute. Obligés enfin d'emballer le match, les Marocains se créaient quelques occasions par Zelzouli, Kabi ou sur les multiples incursions côté droit d'Hakimi. Ils croyaient même un possible retournement de situation lorsqu'ils obtenaient un pénalty à la 81e minute. Malheureusement pour eux, ils laissaient filer cette dernière opportunité, Achraf Hakimi touchant le haut de la barre transversale sur sa tentative. Les Marocains buvaient même le Kali jusqu'à l'Ali avec l'expulsion dans les arrêts de jeu de Soufiane Amrabat, puis sur le but, après coup franc en pleine lucarne de Mokoena. L'Afrique du Sud, sans faire beaucoup de bruit, est en quart de finale. Elle attendra de pied ferme à Yamoussoukro le Cap Vert. Le Maroc, quant à lui, redescend de son nuage mondialiste. Il aura un peu plus d'un an pour préparer un nouvel assaut en direction de la CAN, un trophée qui fit le représentant du royaume chérifien depuis 1976, cette fois-ci à domicile. Depuis San Pedro, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, arrivait à cette CAN avec beaucoup d'ambition, mais n'ira pas plus loin que le huitième, un échec que son entraîneur dit assumé.
J'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif, la fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venu, on a échoué, on va réfléchir et on va avancer.
Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, en face des individualités marocaines, le coach de l'Afrique du Sud dit avoir misé sur un collectif pour contrer les Lions de l'Atlas.
Intrinsèquement, ils ont beaucoup plus de qualité que nous. On a des joueurs locaux. Il faut choisir, il faut trouver une solution pour contrer une équipe pareille. Donc aujourd'hui, on a fait ça en jouant très collectif, très regroupé.
Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud. Avant l'Afrique du Sud, c'est le Mali qui a arraché son ticket pour les quarts de finale en disposant du Burkina Faso 2-1 à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bagassi Koura.
Dans un stade presque acquis à sa cause, les étalons ne vont pas tarder à craquer. Leur défenseur central, Edmond Tapsuba, marque contre son camp dès la troisième minute de jeu. Galvanisés, les aigles musclent le milieu de terrain et sont sur toutes les balles. Ils vont presser, mais ne parviendront pas à corser l'addition avant la pause. Au retour des vestiaires, la défense burkinabé est encore prise à défaut sur un mauvais alignement. La Sinayoko se retrouve face à face avec Hervé Kofi, le portier burkinabé qui est battu 2-0. Les étalons réduisent le score sur un pénalty transformé par leur capitaine Bertrand Traoré. Les aigles du Mali s'envolent sur ce score pour les quarts de finale.
Je suis très content pour mes joueurs. Voilà, je les félicite.
Eric Sekouchel, sélectionneur du Mali.
Ils méritent de gagner des matchs, ils méritent de faire un beau parcours. Voilà, moi, depuis que je suis à la tête de cette équipe, c'est un honneur à chaque fois que je les entraîne. Ils ne sont pas parfaits parce que sinon, ils seraient champions du monde. Voilà, aujourd'hui, on a des qualités, on a des défauts, mais vous voyez qu'après un match comme ça, on ne peut qu'être fier d'eux. Donc moi, je suis très fier pour eux.
On est content pour ce soir-là, cette victoire contre le Burkina. Mais bon, moi, je suis ivoiro-malien. Donc c'est ce samedi là maintenant et c'est pas bon que le meilleur gagne.
Hubert Velude, le sélectionneur des étalons, lui reconnaît un match fade de ses joueurs.
Dans les duels, en retard dans tous les temps de jeu, prend un but au bout de 2-3 minutes de jeu, un match comme ça, il y a un problème quand même de concentration, je pense.
Ce qui n'a pas marché, c'est le coaching. Vous-même, vous savez que quand on met Bertrand à la première mi-temps, on ne gagne pas le match. Et j'ai même dit avant de commencer, avant que le match même commence, j'ai dit, c'est le coaching qui va nous faire gagner.
Après sa quatrième place à la dernière CAN, au Cameroun, le Burkina Faso plie ainsi bagage dès la première phase à élimination directe cette année. Bagassi Koura, Korogo pour VOA Africa.
Merci Bagassi. Il n'y a pas de match aujourd'hui et demain. Les oppositions des quarts de finale commencent vendredi. Le Nigeria affronte l'Angola au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h, temps universel. Et juste après, à 20h au stade Alassane Ouattara, toujours à Abidjan, la République démocratique du Congo fait face à la Guinée. Les deux derniers autres quarts de finale se jouent samedi. À 17h au stade de la paix de Bouaké, la Côte d'Ivoire fait face au Mali. Et à 20h, on aura Cap Vert Afrique du Sud au stade Charles Kona Bani de Yamoussoukro. Yacouba Ouidraougo, Bagassi Koura, Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, VOA Afrique.
C'était donc le journal de la CAN. Je vous le disais en titre, le retrait du Mali, du Burkina et du Niger, du bloc ouest africain de la CEDEAO, est une décision mûrement réfléchie, a déclaré le chef du gouvernement burkinabé. Pour Apollinaire Kielem de Tambela, la sortie répond aux aspirations de souveraineté totale. Nous savons qu'elle ne sera pas sans conséquence sur nos États et leurs économies, a-t-il ajouté à la fin d'un conseil de cabinet élargi hier. Le Premier ministre burkinabé a critiqué la CEDEAO, devenue d'après lui un instrument technocratique, mais aussi pour ce qu'il appelle son indifférence face au massacre des populations, à la crise humanitaire et aux tentatives de déstabilisation des trois pays. Pour sa part, l'Union africaine a exprimé son profond regret hier. Les détails avec Michel Joseph.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec un profond regret l'annonce du retrait des trois pays de la CEDEAO. Il appelle les dirigeants régionaux à intensifier le dialogue avec ces trois pays. Il se dit disposé à fournir toute l'assistance en son pouvoir pour le succès de la logique du dialogue fraternel, loin de toute interférence extérieure d'où qu'elle vienne. Le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont formé l'Alliance des États du Sahel, ont déclaré conjointement dimanche que la CEDEAO était sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs et qu'elle constituait une menace pour les États membres et les peuples. Le Niger a déjà envoyé à la CEDEAO une notification officielle de son retrait, tout comme le Mali et le Burkina Faso. Ces notifications marquent le début d'une période d'un an avant que le retrait ne devienne effectif. Pendant cette période, les pays restent liés par leurs obligations d'adhésion conformément au statut de l'organisation.
Au Nigeria, deux chefs traditionnels ont été tués alors que cinq enfants, de même que leurs enseignants, ont été enlevés lundi dernier lors d'attaques distinctes dans l'état d'Ekiti. Davantage avec Didi Dikou.
Des hommes armés ont attaqué lundi un bus scolaire et enlevé cinq enfants et leurs enseignants près de la ville d'Emouré dans l'état d'Ekiti, selon la police. Ils ont tiré sur les pneus du bus et enlevé les enfants revenant de l'école, a déclaré Gabriel Adesanya, cofondateur de l'école. Il a précisé que les élèves âgés de 8 à 14 ans sont portés disparus, de même que le chauffeur du bus, le contrôleur et deux enseignants. La police a déclaré qu'elle a envoyé des agents pour tenter de secourir les victimes et arrêter les suspects. Deux chefs traditionnels du même État ont été tués le même jour par des inconnus, selon les autorités. Le président Bola Ahmed Tinubu a exprimé sa sympathie pour les familles et appelé au sauvetage immédiat des élèves et enseignants kidnappés. Les enlèvements contre rançon par des bandes criminelles sont un problème majeur dans ce pays. La société nigériane de conseil en gestion des risques a recensé près de 4000 enlèvements au Nigeria.
Au Cameroun, un fonctionnaire a été tué dans la ville de Bouyéa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, lors d'une attaque perpétrée lundi soir par de présumés séparatistes de la minorité anglophone, a indiqué hier le gouverneur local. D'après un haut responsable des services de sécurité, la victime était un jeune homme. D'autres civils ont été blessés, dont un grièvement et 5 véhicules incendiés. En Tanzanie, le Parlement a entamé hier l'examen de projets de réformes électorales décrié par l'opposition notamment. Nanit Talani fait le point.
La présidente veut améliorer la démocratie multipartite par la réconciliation et les réformes, a dit le secrétaire d'État qui a présenté les réformes électorales au Parlement. Elles sont le résultat des changements recommandés par un groupe de travail formé par différents acteurs politiques en Tanzanie, a-t-il assuré. Freeman Mbowe, dirigeant de Chadema, principal parti d'opposition, dénonce des cosmétiques qui ne règlent pas les problèmes soulevés lors des élections de 2020. Pour l'opposition, la législation doit inclure des réformes constitutionnelles et une plus grande indépendance de la commission électorale. Elle critique aussi les dispositions permettant à la chef de l'État de nommer 5 des 10 membres de cet organe chargé d'organiser en 2025 la première présidentielle depuis la mort du président John Magufuli, qui a été remplacé par son adjointe Samia Suluhu Hassan, toujours à la tête du pays. Le Parlement est dominé par le parti au pouvoir, le CCM, qui dispose de 364 sièges sur 392 et il est probable que les réformes soient adoptées. Mercredi dernier, des milliers de personnes ont manifesté contre ces textes à Dar es Salaam à l'appel de Chadema.
Également dans l'actualité, Job Sikala, figure de l'opposition au Zimbabwe, a été libéré hier après plus d'un an et demi de détention dans la capitale Harare, après avoir été condamné à 2 ans de prison avec sursis. C'était une persécution, a déclaré l'opposant de 51 ans, reconnu coupable d'incitation à la violence la semaine dernière. Des ONG accusent le pouvoir de mener une campagne de répression de l'opposition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a déclaré hier qu'il avait décidé comment riposter après la mort de 3 militaires américains en Jordanie. Une réponse qui prendra probablement la forme de représailles multiples. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le président Joe Biden, qui fait face à une intense pression des républicains pour répondre fermement à Téhéran, n'a pas donné plus de détails. Interrogé au sujet de l'Iran, il a dit « Je les tiens pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux gens qui ont fait ça, en l'occurrence les combattants responsables de l'attaque dimanche en Jordanie, près de la frontière syrienne. Il est très possible que vous assistiez à une réponse graduée, pas une seule action, mais potentiellement de multiples actions », a ajouté le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Nous considérons que le niveau de tension est très alarmant et que le moment est venu de prendre des mesures pour désamorcer les tensions, a déclaré mardi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, à la presse sur le risque de représailles américaines contre l'Iran, un allié de Moscou. Pékin a de son côté appelé toutes les parties concernées au calme et à la retenue. Les brigades du Hezbollah, influent groupe armé pro-Iran en Irak, ont annoncé mardi suspendre leurs opérations militaires contre les troupes américaines. Le Pentagone avait pointé une potentielle responsabilité de ces brigades pour l'attaque meurtrière contre la base logistique américaine située près de la frontière avec l'Irak et la Syrie.
Khan Younes est le théâtre de combats acharnés ce mercredi alors que les troupes israéliennes tentent de défaire les combattants du Hamas sur fond d'appel de l'ONU pour maintenir l'aide à Gaza de son agence pour les réfugiés palestiniens. Pendant ce temps, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar s'activent en coulisses pour tenter de convaincre Israël et le Hamas de s'engager dans une nouvelle trêve après celle d'une semaine en novembre dernier qui avait permis la libération d'otages dans la bande de Gaza en échange, entre autres, de prisonniers palestiniens écroués en Israël.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce dernier jour du mois de janvier de 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. D'emblée, revenons sur la suspension en début de semaine de Jacob Zuma de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. À l'approche des élections générales prévues cette année, l'ancien président qui avait dû quitter le pouvoir à cause d'affaires de corruption présumées a indiqué le mois dernier vouloir faire campagne pour un nouveau petit parti radical baptisé du nom de la branche militaire de l'ANC pendant la période de l'apartheid. De Johannesburg, le reportage de notre correspondante Patricia Humeau.
Face à tant d'insubordination, l'ANC n'avait plus vraiment le choix. Le parti au pouvoir a fini par sanctionner Jacob Zuma, une décision prise à l'unanimité par ses cadres, dit le secrétaire général Fikile Mbalula.
L'ANC a pris note de l'annonce faite par l'ancien président Jacob Zuma le 16 décembre 2023. Il a déclaré qu'il ferait campagne pour un autre parti et a ensuite lancé une série d'attaques au vitriol contre l'ANC et ses dirigeants.
L'influence politique de Jacob Zuma a faibli depuis qu'il a été forcé à la démission par son propre parti en 2018 suite à des soupçons de corruption généralisée. Mais l'ancien chef de l'État reste populaire parmi une frange de la population, particulièrement dans sa province du KwaZulu-Natal, qui vote massivement pour l'ANC. S'attaquer à lui, c'est donc risquer de perdre des électeurs pour le parti au pouvoir déjà mal en point, dit l'analyste politique Ibrahim Harvey.
L'ANC se trouve entre le marteau et l'enclume quand il s'agit de Zuma, parce qu'il ne dit pas seulement qu'il ne votera pas pour l'ANC, mais il appelle les électeurs à ne pas voter pour l'ANC. Il y a une réponse largement plus positive que je ne l'aurais pensé à la création de ce parti MK. Et je pense que c'est principalement dû à la crise de leadership au sein de l'ANC. Zuma a été très malin dans la manière dont il a calculé les choses.
Avec ce nouveau parti, Umkhonto Sizwe, Jacob Zuma joue sur la détresse économique et sur la nostalgie d'une radicalité perdue au sein de l'ancien mouvement de lutte contre l'apartheid. À 81 ans, Jacob Zuma reste une épine dans le pied de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa et de l'ANC, estime Suzanne Boysen, professeure de sciences politiques à l'université de Wits à Johannesburg.
Des questions vont être posées, car après tout, c'est l'ANC qui a fait de Zuma ce qu'il est. C'est l'ANC qui l'a protégé pendant toutes ces années.
Jacob Zuma est désormais suspendu de l'ANC, qui n'a cependant pas voulu prendre le risque de l'exclure. En juillet 2021, après son incarcération pour outrage à la justice, des manifestations de soutien à Jacob Zuma ont été suivies d'une semaine d'émeutes et de pillages. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Les murs ont des oreilles. C'était le thème de la deuxième édition du Festival international de graffiti qui s'est tenu récemment au Burkina Faso. L'événement, appelé Graf Sahara, donne l'occasion aux artistes graffeurs du pays et d'ailleurs de promouvoir cet art, mais aussi de véhiculer des messages de paix et de tolérance en lien avec la situation sécuritaire difficile dans cette partie du continent africain. Le graffiti au service de la paix, c'est un reportage de Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Sur une des principales artères de la capitale burkinabé, des fresques murales, des graffeurs sont à la tâche. Des messages forts, engagés et parfois réconfortants sur le mur. Nous sommes à l'unique festival de graffiti du pays. Cet art, encore méconnu, est une passion. Christian Maker Bayala, un graffeur malien prenant part à ce festival.
Quand je m'exprime sur ces murs, c'est une façon de m'évader, de m'éloigner, voilà, de karma planer. Voilà, je me sens vraiment dans ma peau d'artiste quand je graffe quand je suis sur un mur en train de m'exprimer. L'état du graffiti là-bas, en tout cas, c'est pas trop connu. Voilà, c'est pas trop connu. Voilà pourquoi moi-même j'ai validé l'invitation pour venir vraiment m'exprimer avec mes frères graffeurs d'ici.
Clairement, le graffiti permet de s'exprimer. Même les fake news, la désinformation ne sont pas épargnées ici. Comme nous le dit l'artiste graffeur Abdoulaye Télé.
C'est une manière de dire, il faut toujours analyser les mots avant d'y croire. Donc fake news, des fausses nouvelles, il faut toujours analyser les propos avant d'y croire. Quoi. Pour moi, le graffiti, c'est une autre manière d'exprimer, en fait. On passe le message à travers ça, comme la musique aussi. C'est une manière d'exprimer, quoi, de s'exprimer au plus.
Cette jeune dame, Marietou Sawadogo, bien qu'exerçant déjà les arts plastiques, est venue s'imprégner de quelques notions du graffiti.
Je suis artiste, mais il faut dire que c'est surtout la curiosité qui m'a emmenée vraiment à venir découvrir. Parce que pour moi, être artiste, c'est ça, hein. Faut ne pas rester seulement dans son milieu, faut chercher aussi à voir, parce que tout ça aussi, c'est de l'art. Donc je suis venue là juste pour comprendre, pour mieux et voir si je peux aussi, pourquoi pas, essayer d'améliorer aussi mon style en tant qu'artiste à partir bien sûr du graffiti, tout ça.
Pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, ces graffeurs, à l'image d'Ousmane Guigma, qui ne demande qu'à être accompagnés, ont décidé de passer des messages de tolérance et d'union.
Nous essayons surtout des messages de résilience, des messages pour galvaniser en fait nos FDS et nos VDP qui sont au front. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons mis l'accent, en tout cas jusque-là, et surtout sur l'union, parce qu'actuellement nous en avons besoin. Le graffiti est très peu connu, est méconnu au Burkina ici. D'ailleurs, c'est le seul festival de graffiti, en tout cas qui mérite soutien. Nous avons juste besoin de murs, voilà, et la matière première, en tout cas, pour nous exprimer.
Plus d'une vingtaine de graffeurs ont participé à cette édition du festival. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Bénin et naturellement du Burkina Faso. Le festival se penche sur la prochaine édition en 2025. Objectif, vulgariser le graffiti tout en passant des messages de paix et d'union. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. La décision de ces trois pays, dirigés par des militaires et qui viennent de créer l'Alliance des États du Sahel, a envoyé une onde de choc dans la région, relançant le débat sur l'avenir du bloc régional. La CDAO se dit prête à négocier avec les trois pays. Quelles sont les implications d'une telle décision, notamment sur l'intégration et la sécurité régionale? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
La Maison-Blanche affirme qu'elle ne cherche pas la guerre avec l'Iran, alors que le président Joe Biden s'est engagé à répondre à une attaque de drone qui a tué trois militaires américains en Jordanie. Washington attribue l'attaque à des milices soutenues par Téhéran. Le Congrès des États-Unis fait pression sur l'exécutif américain pour qu'il riposte au risque d'étendre le conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Le reportage d'Anita Powell de la VOA est relaté par Nani Talani.
La Maison-Blanche est sous pression pour réagir contre une attaque de drone qui a tué dimanche trois soldats américains en Jordanie. Washington l'attribue à des milices soutenues par l'Iran qui opèrent en Syrie et en Irak. Des responsables de l'administration Biden se disent convaincus que l'Iran est à l'origine de l'attaque, sans donner de détails ni préciser ce qu'ils vont faire. John Kirby est directeur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale.
Je ne vais pas télégraphier des coups de poing depuis le podium. Je ne vais pas non plus me mettre devant le président ou ses décisions. Comme il a dit hier, nous répondrons. Nous le ferons selon notre calendrier et notre temps. Et nous le ferons de la manière choisie par le président en tant que commandant en chef. Et nous le ferons en étant conscient du fait que ces groupes soutenus par Téhéran viennent d'ôter la vie à des soldats américains.
Mais selon M. Kirby, une chose est claire.
Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran. Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec le régime sur le plan militaire.
Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exprimé lundi à Washington ses inquiétudes et pointé du doigt l'Iran.
Nous voyons l'Iran continuer à déstabiliser la région. L'Iran est aussi responsable du soutien apporté aux terroristes qui attaquent les navires en mer Rouge. Le comportement de Téhéran nous rappelle à quoi ressemble le monde sans règles, imprévisible et dangereux, un monde où notre sécurité devient plus coûteuse.
Bernard Hudson est un ancien chef de la lutte contre le terrorisme à la CIA et s'est entretenu avec le service perse de la VOA via Zoom.
Il est clair que la stratégie américaine, si elle consistait depuis 3 mois à ne pas laisser les tensions régionales s'aggraver, a échoué.
Depuis la capitale jordanienne, Amer Sabaileh, analyste politique.
Cette attaque représente une nouvelle dimension du conflit. Le fait de viser les troupes américaines à l'intérieur de la Jordanie ou à la frontière jordanienne montre que la cible s'étend de la Syrie à l'Irak et maintenant à la Jordanie.
Et quelle va être la réponse américaine? Tout repose sur les épaules du président Biden.
Nous avons perdu 3 hommes courageuses lors d'une attaque de l'une de nos bases. Je demande 1 minute de silence pour nos 3 soldats tombés au combat. Et nous répondrons. Que Dieu vous bénisse tous.
This is the voice of America, Washington, D.C.
Coup de projecteur maintenant sur une organisation à but non lucratif basée ici aux États-Unis et qui a pour nom CASA, qui signifie maison en espagnol. Son objectif, améliorer la qualité de vie des immigrés à faible revenu en leur apportant un soutien juridique dans des domaines tels que le logement et l'emploi. Thierry Caoré s'est rendu dans un des centres d'accueil de CASA à Silver Spring, dans l'État du Maryland. Reportage.
Le centre d'accueil de Wheaton, non loin de Washington, est l'un des sites de la CASA qui accueille les immigrés et leur offre différents services. Gilles Moncam est le responsable du programme de développement économique du centre.
Nous aidons les nouveaux venus, les gens de la communauté à s'intégrer. Il y a les Africains, il y a les Latinos, il y a tout le monde.
La plupart des immigrés qui arrivent dans ce centre sont à la recherche d'emploi ou de formation professionnelle. Chigonzi Emmanuel Emedo est originaire du Nigeria.
J'aimerais suivre une formation pour pouvoir trouver un emploi. Une formation spécialisée qui m'aiderait à trouver un emploi. J'aime l'électricité, la peinture, la tapisserie, la plomberie.
Dans un autre centre, toujours à Silver Spring, une assistance gratuite est offerte aux immigrés afin qu'ils puissent avoir accès aux services sociaux de base. Luison Django Ndozo est agent de liaison communautaire de l'organisation CASA.
Nous avons les services légaux dans le cadre de l'immigration, cadre de logement, cadre de l'emploi. Nous avons des formations professionnelles en électricité, en construction, en plomberie, en peinture et plein d'autres. Nous offrons des cours d'anglais. Par moment, nous les ravitaillons en nourriture.
Wendy Castillo-Pérez est une immigrée venue du Salvador il y a 11 ans.
Mes amis m'ont conseillé de venir demander de l'aide ici à la CASA de Maryland. Je suis donc venue pour faire une demande d'assurance maladie pour mon fils.
La CASA offre aussi des opportunités d'emploi aux immigrés. Frédéric Ngongang, responsable du tout premier centre de la CASA, créé en 2003, se souvient encore des difficultés que les immigrés rencontrent.
Quand nous arrivions ici en 2003, nous avions ici environ, chaque matin, 200 à 300 immigrants qui attendaient le long du portail afin de pouvoir trouver un boulot pour pouvoir survivre.
Le centre dispose aussi d'une salle d'informatique où les demandeurs d'emploi peuvent suivre gratuitement des cours d'anglais, consulter leur courrier ou même chercher du travail en ligne. Gloria Sylvie est une immigrée d'origine camerounaise.
Je préfère venir travailler ici gratuitement et à tout moment, à toute heure, quand je veux, je peux venir travailler ici sans stress.
C'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui, édition matinale du mercredi 31 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot, à la technique Kelvin Fowler. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.